Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC en mode warm-up avant le Grand Prix du Qatar, 23e manche du championnat. Il y a un peu moins d'excitation parce que bien évidemment, Max Verstappen est champion du monde. Il y a quand même malgré tout plusieurs enjeux pour ces deux dernières courses de la saison. Il y aura Qatar, il y aura Abu Dhabi aussi dans quelques jours. Donc on va se pencher sur tout ça, on va vous parler de ce tracé de Losail et puis de la big news qui a affolé le monde de la F1. Une 11e écurie en Formule 1à partir de 2026, les gars. Ça, c'est complètement fou. On va revenir sur tout ça. Jean-Luc Roy, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, doit être comme un dingue. Il militait pour ça, Jean-Luc. Pour en parler, les ingénieurs du paddock RMC, ce sont les spécialistes du warm-up. Ce sont eux qui mettent au point la monoplace paddock RMC avant les Grands Prix. Louis Gerbier, Arnaud Valadon. Salut, les gars.
Salut, Arnaud. Salut,
hello, Nico. Hello.
Salut, tout le monde.
Arnaud, qui est en Suisse. Hein. T'es au pays de Sauber. T'es chez Sauber.
Ouais, pays de Romain Grosjean, Gunther Steiner, ouais. Sébastien Buemi Gunther. Aussi. Hein.
Ah,
est-ce que tu l'as croisé, Gunther ?
Non, parce que je suis à Bâle, pour rien vous cacher. Ouais. Et lui, c'est plus, tu vois, le sud, hein, les Alpes suisses, voilà, frontière italienne. On est un petit peu loin.
Gunther Steiner qui a sorti un bouquin, d'ailleurs. J'ai plus le titre là. Je sais pas pourquoi je pense à ça.
Mais je me demande si c'est pas un jeu de mots en plus, genre sur justement une de ces phrases que Netflix le titre.
Si,
je vais te retrouver.
Si, je suis dessus. Attends, je suis dessus. Ouais. Mais en tout cas, il sort un bouquin
sans
en ce moment.
Filtre,
il fait des sans filtre, exactement. Gunther Steiner que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies. Franchement, il paraît que c'est bien. Ça parle sur toutes ces années as. Donc voilà. J'ai pas les nazes.
Notification push. Jean-Luc Roy ouvre son troisième magnum de champagne. Ça y est.
Ah oui.
Ouais. Pour, ah bah la 11e équipe, il y a 22 pilotes, ça y est.
Il doit être comme un dingue. Les gars, c'est parti pour ce warm-up du Grand Prix du Qatar. Je vous le disais, 23e manche de la saison à Losail. Les pilotes qui sont d'ailleurs arrivés, j'en ai vu plein là au Qatar qui sont en train de faire des padels dans tous les sens. Là, j'ai vu Max Verstappen sur un terrain de padel. Vous savez, ce sport qui cartonne en ce moment. Même lui, il s'est mis au padel.
Eh oui, on débute.
Je les ai vus, Lando Norris aussi un peu pour se soulager l'esprit.
Les meilleurs au padel que pilote
non. Oh, mais non, mais mettre un tir comme ça en début de podcast, qu'est-ce que c'est moche. Tiens, d'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez vous réécouter le podcast sur le titre de Max Verstappen, il est bien évidemment encore disponible. Il part très fort. Vous avez plein d'infos sur tout ce qui s'est passé tout au long de la saison. Vous avez les analyses de Jean-Luc, de Louis, de Paul Lafitte qui était avec nous pour revenir sur cette saison de malade. Donc on va pas trop revenir là sur ce quatrième titre de champion du monde de Verstappen. On va se plonger vraiment dans ce Grand Prix du Qatar, les gars. Louis, déjà, avant de parler des spécificités du tracé de Losail, est-ce que les enjeux qui restent là t'excitent encore un peu? Il y a bien évidemment la lutte pour le titre constructeur, hein, 24 points de ouais. retard pour Ferrari sur McLaren, parce qu'on va peut-être écarter Red Bull de la course, même si c'est pas encore officiel, on se dit quand même que ça va être compliqué. Mmh. Est-ce que ça, c'est quand même excitant? Il y a aussi la deuxième place au classement des pilotes. Enfin, il y a quelques petits trucs à jouer quand même. Hein.
Bah, je pense déjà que en F1, quand tu suis un peu la F1, tu apprends assez rapidement à trouver des side quests, quoi, comme on dit dans les jeux vidéo, d'être intéressé pas que par le championnat ou des choses comme ça. Par exemple, simplement quand tu suis, comme moi, Alpine en particulier, tu t'intéresses à l'époque au midfield, maintenant au fond de grille, ou des choses comme ça. Donc tu trouves toujours, je trouve, des trucs qui sont intéressants. Alors c'est vrai qu'une fois que le pilote est champion du monde, que le championnat pilote est un peu fait, ça peut être moins intéressant, mais je trouve que c'est pas le cas parce que déjà à Verstappen tu sentais que ça allait venir quand même, et il y a tellement de choses à tous les niveaux, et puis il y a une nouvelle réglementation dans un an et demi, donc même être 6 ou 7e avec les millions et que ça peut générer ou quoi, finalement chaque voiture joue encore quelque chose aujourd'hui, donc ça moi je trouve plutôt je suis même assez excité de cette fin de saison, et à partir du moment en plus où il y a 3 écuries autour du championnat constructeur, c'est génial, des pilotes dans une voiture qui tient la route et qu'on feint, et chacun est encore motivé pour aller le chercher. Donc non, moi je suis plutôt très motivé, et j'espère surtout que, comme on disait, en tout cas c'est ce qu'on dit, que Losail est quand même plus typé McLaren, j'espère qu'il y aura quand même une belle bataille pour que justement on aille jusqu'au bout, jusqu'à Abu Dhabi comme ça avec cette incertitude.
Ouais, les McLaren qui avaient été performantes hein, la saison dernière, c'est Max Verstappen qui l'avait emporté, mais Piastri et Norris étaient montés sur le podium. Moi, Arnaud, comment tu sens ce Grand Prix du coup à Losail et cette lutte entre McLaren et Ferrari? Est-ce qu'il y a vraiment un vrai gap sur le papier dans les perfos qui sont en faveur de McLaren, ou franchement Ferrari sur la dynamique qu'on voit de la fin de saison et tout ça, il y a vraiment match quoi?
Après, on disait que Vegas pouvait plutôt matcher Ferrari. On a vu un doublé Mercedes. Donc, quand on voit le style des monoplaces et quand on voit le style du circuit, Losail, où voilà, tu as quand même des virages plutôt rapides, tu n'as pas un énorme gros freinage, tu as une épingle fin du premier secteur et une immense ligne droite. Bon, c'est pas un circuit, dans tous ces circuits modernes, qui te fait forcément rêver. Mais bon, t'as déjà peut-être plus l'air d'un circuit que Las Vegas. Donc oui, on est forcément, quand on adore, et Louis l'a parfaitement résumé, la F1, on cherche un petit peu les quêtes annexes. Donc voir comment va se dérouler ce championnat du monde des constructeurs, qui est immensément important. C'est vrai qu'au niveau du grand public, c'est pas forcément, on regarde pratiquement que celui des pilotes, mais en termes d'importance et de moyens financiers, on sait que si vous changez de place, c'est presque 10 millions de dollars en plus ou en moins. Donc c'est quand même très important, surtout dans cette Formule 1 avec des caps salariaux où t'es modifié. Et moi, j'ai aussi un énorme enjeu que j'ai envie de voir. Est-ce que Sauber va prendre enfin un point?
Ah oui, c'est vrai que moi, j'endors plus la nuit de ça.
Le zéro pointé, je suis en train de regarder un petit peu parce que je suis déjà en 2021. C'est la dernière fois qu'une écurie a fait le zéro pointé.
Ouais. Non, mais alors, pour rien vous cacher, en préparant le podcast, je suis allé
sur le site
As
en deux, c'était As en 2021. Mazepin et Mick Schumacher.
Mazepin.
Oh. Je l'avais oublié celui-là. Bon, pourtant, sulfureux personnage.
Il est parti en 10 jours en fait avec la guerre. Il est parti un peu aussi vite qu'il est arrivé, donc on l'a oublié quoi finalement.
Ouais, carrément. Non, mais c'est vrai que je regardais un peu là sur le site de la Formule 1 pour préparer le podcast les enjeux du Grand Prix. Ils ont fait un papier là sur les différents enjeux et figurez-vous qu'ils ont mis Sauber va-t-elle marquer ses premiers points. Et ils l'ont mis très sérieusement. Je me suis dit, est-ce que quelqu'un va me balancer cet enjeu là? C'est moi.
Et pourtant, j'ai même pas lu le papier. Hein.
Les gars, sur la dynamique quand même des deux écuries, là, McLaren, Ferrari. On a quand même des pilotes McLaren qui marquent le pas. Bon, Lando Norris, on se dit que mentalement ça va être dur de s'en remettre, même si avec la meilleure voiture ça reste quand même un pilote très solide, il va peut-être pas avoir la niaque de ces derniers jours. Et il y a quand même un gars qui rentre dans le rang aussi, c'est Oscar Piastri,
carrément.
On en a peu parlé parce que ça a un peu éclipsé la lutte Verstappen, Norris, tout ce qui se passait en course là, ce Grand Prix du Brésil phénoménal d'ailleurs, le paddock, allez vous le réécouter, franchement cette course incroyable. Mais Piastri, ça rentre fort dans le rang là ces derniers temps.
Hein. Ah ouais, bah depuis cet été, on en avait parlé à la rentrée en disant ça fait 2-3 courses là, il y a un peu moins de choses. Vraiment, il a fait un été impressionnant où on voyait le Piastri qu'on imaginait se révéler. Et finalement, il est reparti se planquer un peu de manière surprenante. Une fin de saison où peut-être que les directives dans son écurie, le bazar avec Norris qui joue le titre, pas lui, ça l'a peut-être perturbé, je sais pas. Peut-être aussi que quand tu commences à courir en sachant que tu peux gagner ou que tu peux faire des podiums, il y a peut-être une pression qui s'installe et tu n'as plus cette cette innocence, pardon.
Je l'avais pas du tout. T'étais seul dans ta galère. T'étais tout seul, mon gars.
Mais je pense que quand les, tu sais, c'est un peu au tennis, au padel, tu sais, quand tu joues avec ton pote, tu fais des coups, tu dis, oh, d'un coup, je joue bien, tu dis, on fait un match, donc là, les coups, ils comptent, et d'un coup, tu n'y arrives plus parce que tu t'oses plus, quoi. La peur de gagner, un peu, pour faire simple. Et peut-être que c'est ça qui lui tombe un peu sur le coin du nez, mais c'est vrai qu'il est rentré dans le rang, et même ces derniers temps, c'est plus que ça, c'était presque un peu décevant. Au dernier, il se met juste derrière Norris et il y arrive à peu près, mais c'est un peu tumultueux, il faut qu'il remonte le dimanche. Enfin, est-ce que c'est une fin de saison un peu par-dessus la jambe ou est-ce que c'est un vrai indice d'un petit point faible pour Oscar Piastri qu'on aurait, en tout cas, moi, j'avais pas décelé avant la rentrée, avant fin septembre.
Mais tu sais, le coup de mou, il est simple, tu regardes depuis sa victoire à Bakou. il s'est fait battre à chaque fois par Lando Norris, qu'on a beaucoup critiqué. Mais il... là, j'ai regardé, donc depuis Bakou, on a disputé 5 Grands Prix. Il y a eu 2 qualifs sprint. J'ai fait le total là, en t'écoutant. Norris a pris 40 points de plus que Piastri.
C'est énorme.
C'est colossal.
En 5 courses.
Parce qu'il n'y a pas que des consignes. Hein. Y a, clairement
non,
pas,
oui, il y a le Brésil où là c'est consigne, mais le reste, tu vois, 25 à 15 à Singapour, 18 points à 10 aux États-Unis, puisque Norris a pris 6 points au sprint, 18 points à 4 au Mexique. Enfin, tu vois, c'est des gros écarts aussi. Hein.
Mmh. Ouais, c'est clair. De toute manière, il fait P7 à Las Vegas, P8 au Brésil, P8 au Mexique et P5 aux États-Unis, mais c'est vrai qu'il galère depuis la fin septembre là, c'est plus dur pour Oscar Piastri. Du coup, on se dit que Arnaud, franchement, Ferrari, si jamais les tensions de la semaine dernière se sont un peu éclipsées, Fred Vasseur d'ailleurs qui a pris la parole pour recadrer un peu tout ça, je vous rappelle quand même ce qui s'est passé, mais Charles Leclerc qui a râlé contre Carlos Sainz parce que ça ne serait drôle pas d'ailleurs respecter les consignes d'écurie, qui lui dit c'est toujours moi qui suis trop gentil et à chaque fois je suis le grand battu de l'histoire quoi, parce que voilà,
et dit essayez de lui parler en espagnol.
Ouais, ça c'était le meilleur moment, ça. Non mais t'inquiète pas, Charles, on a transmis les infos à Charles. Ouais, bah essayez en espagnol. très c'est bon
que,
ça.
C'est vrai que la punchline était exceptionnelle. Mais du coup, Arnaud, on se dit que la dynamique pilote est peut-être vraiment en faveur de Ferrari là.
Pourtant, avant les États-Unis, j'étais vraiment de l'avis opposé où je me disais, bah, je sens que Lewis Hamilton, il est plus vraiment la tête chez Mercedes. Bah, quand tu vois sa course à Las Vegas, là, ça m'a fait fermer mon clapet. Hein. Exceptionnel, Lewis Hamilton, félicité par tout le paddock pour sa remontée incroyable. Et oui, en l'espace, comme quoi ça peut aller vite, là, tu sens clairement que le momentum, il est plutôt du côté de Mercedes pour bien finir. Alors, ils sont trop loin au classement pour aller chercher ne serait-ce que Red Bull au classement des constructeurs, mais ils vont être là et c'est sûr que ça fait un autre arbitre. On disait, tiens, dans le duel entre Verstappen et Norris, ah bah il y a les Ferrari qui sont là en arbitre. Et bah Mercedes se rappelle un petit peu au bon souvenir de tout le monde, et surtout Russell qui fait aussi, je trouve quand même, une super saison. Il a déjà pris deux P1, donc moi je pense que Mercedes, là il y a quelque chose qui peut les embarquer. Et Ferrari, bon, je pense que Fred Vasseur a remis un petit peu les points sur les i. J'ai pas tendance à penser que ça va laisser beaucoup de traces. Après,
je pense pas non plus, franchement. Bon, je sais pas, Louis, ce que t'en penses, mais tu sens que c'est un fait de course. Les deux sont chauds, ils s'entendent plutôt bien les deux. Bon, Charles, il a la sensation de s'être fait un peu léser, voilà. Il a sorti un peu il a montré les biceps et puis voilà quoi, ça rentre dans le rang. Hein.
Ouais, je regardais quand même. Je sais pas si 130 on peut appeler... points. Pardon. Dis.
Vas-y, non, je te disais juste 130 points de retard pour Mercedes par rapport à Red Bull au classement constructeur. Mmh. Donc ils sont loin, hein. Mais c'est vrai que ça peut vraiment être l'arbitre de cette fin de saison quand tu vois leur course à Las Vegas.
Ah bah ouais.
Vas-y Louis.
Je disais, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est montrer les biceps puisque Charles, excuse-moi de ce que je vais dire, mais c'est un peu chouiné quoi. Tu montes les biceps en piste. En fait, tu dis à Carlos, tais-toi, tu passeras pas dans ce virage, tu restes derrière, mon copain ou mi compañero, puisqu'il faut parler en espagnol. Et puis c'est tout, quoi.
Quel accent.
Tu l'as senti là, l'Andalousie.
Ah oui, là j'y étais. Là. Ça respirait la paille là.
Mais oui, non. Donc peut-être qu'aussi un peu comme Norris, Charles, on sait que les dixièmes, le talent, le truc, il les a. C'est sûrement, pour moi, je suis persuadé qu'en rapidité pure, il est vraiment le deuxième derrière Verstappen sur cette grille et tout proche de lui. Mais je pense qu'il n'a pas le même bagage sur la méchanceté, parfois.
Oui, parce que l'année prochaine, c'est pas Sainz devant, c'est Hamilton.
Eh ouais,
qu'est-ce qui se passe ça?
Ben oui, non. Et puis alors, tu vois, c'est ça. Moi c'est un peu ça qui me fait peur. C'est que celui qui arrive, il va tout sauf dire Charles, tu es le numéro 1. Il va arriver en disant en fait, je t'explique, moi je suis à 40 millions, j'ai 8 titres, enfin 7. 8 pour certains et donc voilà quoi. Donc moi sur ce côté-là, je demanderais à Charles, enfin je demanderais de vraiment passer un cap sur le fait d'être un peu plus méchant, sans être con, attention, hein, mais on peut être méchant, tu vois. Je pense pas qu'un Prost se soit déjà fait marcher sur les pieds comme ça dans sa carrière. Donc, voilà, sur cet aspect-là. Après, sur l'arbitre, je te rejoins complètement. On sent une petite dynamique du côté de chez Mercedes qu'on n'avait pas ressenti ces derniers temps. L'encéphalogramme était quand même très plat. Que la course soit moyenne, que la course soit bonne, t'avais l'impression que bon an, mal an, on attendait, on sait même pas trop quoi, mais il se passait plus grand chose. Enfin, tu vois, c'était un peu flatouille. Là, tu sens même, il sort une petite phrase, Russell, qui est intéressante. Il dit, pour moi, Verstappen, il a pas eu une vraie rivalité là ces dernières années. Moi, je veux être celui qui lui offre une vraie bataille, un vrai combat, tu vois. Donc, tu te dis que si tu sors ça, c'est que t'as des espoirs, on va dire, assez solides sur le fait que ta monoplace, elle va être pas trop mal l'année prochaine. Donc, il y a peut-être enfin un peu plus de compréhension, des petites choses qui se passent. Après, attention, Mercedes, il fera pas 10 degrés sur la piste tous les week-ends. Faut voir ce qui va se passer à Losail.
Juste, Louis, pardonne-moi de te corriger, parce que tu dis, selon certains, Lewis a 8 titres. Selon Felipe Massa, il n'a que 6 titres.
Oui, pardon, exact, bien joué, bien joué.
C'est vrai.
Très bon.
C'est vrai, c'est carrément vrai. Les gars, on va aussi, j'allais dire, ouvrir le dossier, mais bon, j'ai l'impression que ça fait quand même quelques semaines qu'on l'a ouvert. Hein, si vous écoutez le paddock RMC depuis le début de saison, ça fait quelques semaines qu'on est en train d'asmater le pauvre Sergio Pérez. Mais bon, ça a encore bougé depuis sa course à Las Vegas, avec un Christian Horner qui continue de dire qu'ils n'ont pas de deuxième voiture, mais qu'ils font confiance à Pérez. J'ai regardé.
C'est un peu les Girondins de Bordeaux de la Formule 1, Pérez.
Ouais, c'est pour ça que je vais en parler. Parce que
tu veux énerver notre animateur, c'est ça ?
Il me touche, Sergio. Il s'est qualifié en moyenne à la 9,4e place depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'on est plus proche de la 9e que de la 10e, mais on est pile poil entre la 9e et la 10e. J'ai regardé, c'est 6 éliminations en Q1, 3 éliminations en Q2. Ça veut dire que sur 9 Grands Prix sur 22, t'es hors de la Q3. Et sur les 6 dernières courses, les mecs, il a pris moins de 10 points, Sergio. Il a marqué que 9 points. Voilà où on en est, quoi.
Mais tu sais, moi, à un moment donné, on a beau dire, voilà, Sergio Pérez, il performe pas, etc. Mais c'est à Red Bull de siffler la fin de la récré, que ça soit clair.
Ben oui.
Parce que tu vois, ça arrête pas. Et les déclarations d'Helmut Marko, et Horner, machin. Et il reste, et on essaye, lui. Est-ce qu'on fait monter un pilote, etc. À un moment donné, sifflez la fin de la récré et soyez clair. Pour dire, voilà, il reste pas. Il n'est pas performant, on a besoin d'excellence chez Red Bull parce qu'on est une des écuries majeures et qu'on a des titres constructeurs à aller chercher qui sont très importants. Là, tu laisses tout le monde dans le flou et ça te donne un espèce de gloubi-boulga à chaque semaine, sa déclaration. Ouais, il va rester, il ne va plus rester. Moi, franchement, ça me fatigue et ça me fait plus de peine qu'autre chose pour Pérez qu'à un moment dit, gars, écoute, tu n'es pas au niveau. On t'écarte, mais au moins c'est clair. Faut arrêter. Franchement, c'est niveau cours de récré et ça me fatigue là vraiment.
Ouais, moi je vraiment, Arnaud, je suis d'accord avec toi. Ça, en ce moment, dans cette dynamique, ça me fait un peu penser à Mbappé. Où tu vois, hier, il rate son péno et en fait, j'ai pas envie de dire quoi que ce soit. Genre, vas-y, on va le lâcher 2 minutes, là, ça devient presque triste. C'est un peu pareil avec Pérez. En fait, là, on voit bien que. Enfin, on l'a vu gagner des courses, donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est peut-être personnel, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être un mélange, c'est peut-être un ras-le-bol, ça peut être 1000 choses. Mais voilà, comme dit Arnaud, on siffle la fin de la récré. Je pense que ça serait une bonne chose pour tout le monde et même pour lui. Parce que bon, après 15 ans de carrière, 10 ans de carrière en F1, il va réussir à joindre les deux bouts à la fin du mois, même sans son boulot. Enfin, je veux dire, c'est peut-être le moment. Même si c'est une pause, même on ne sait jamais, tu vois. Mais genre là, je pense un peu comme Ricardo à la fin de McLaren. Allez, on arrête les frais, on met tout en pause, quoi. Je pense que ça serait une bonne chose pour tout le monde.
C'est 6 victoires, hein. 6 victoires, l'ami Sergio. Hein.
280
grands
et puis pas n'importe
disputés,
où. 30, à chaque fois, un grand prix en ville, il fait Bakou. Enfin, il faut quand même être un bon pilote pour être bon à Bakou, tu vois. Enfin, je veux dire, il est pas, c'est pas une tanche, quoi. Donc voilà.
C'est clair. Avant d'ouvrir le gros dossier de ce paddock RMC, tiens, juste une petite news qui est tombée. Alors, deux petites news. Tiens, Isaac Hadjar va piloter quand même dans la Red Bull de Verstappen à Abu Dhabi. Ça sera lui qui va rouler en FP1. Voilà, Isaac qui est d'ailleurs toujours en course hein, pour le titre de champion F2. Hein, là, ce week-end, là, il y a une manche très importante au Qatar pour lui. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit Français qui roule. Qui plus est, quand on voit le flou chez Red Bull et qu'on se dit qu'il y a peut-être une place à prendre, ou en tout cas un Tsunoda, un Lawson qui peuvent monter chez Red Bull et un baquet dispo chez RB. Bon, à voir. Et dernière news.
Tu te souviens de qui avait roulé à la place de Verstappen l'année dernière ?
Ah, j'en ai plus aucune idée.
Ah bah, je l'avais complètement oublié. Hein, c'est Jack Dennis, champion de Formule E.
Hein ? Oh, pff, ça ne me dit rien du tout.
Ouais, je ne l'avais pas du tout.
Aucun souvenir.
D'accord.
Je viens de lire ça.
Lien de parenté avec Ron Dennis ?
Ah. Non, je crois pas.
Ouais.
Je vais vérifier. Bon. Mais,
très bien.
Non, c'est juste pour dire que bon, on est très content pour Isaac parce que
oui,
voilà,
ça
c'est
fait
quand
pas
même une opportunité,
carrière.
Mais ils sont tous obligés de le faire, quoi. Mm. Tu vois, est-ce que
oui.
C'est quoi la vraie valeur de ça? Alors, c'est toujours bien de le faire, tu vois. Mais bon.
Oui, non, mais c'est clair. Ça va pas nous offrir des enseignements de dingue et de zinzin. Mais bon, avoir un Français qui roule quand même au volant d'une Red Bull, c'est à souligner. Et puis
l'occasion
dernière
de voir les essais, voilà, ça va être intéressant.
Ouais, c'est ça. On va checker un peu plus les essais. Monza qui est prolongé au calendrier jusqu'en 2031. Ah, le temple de la vitesse. Mmh. Oui. Ça y est.
Alors ça fait plaisir.
On re-signe pour 6 ans. Ça, c'est cool. Hein.
Ouais, ça fait plaisir parce que dans la F1, on voit bien vers quoi on se dirige. On se dirige vers moins en moins de grands prix historiques pour une raison mercantile, financière. C'est que c'est quand même plus compliqué d'aller faire du blé à Hockenheim ou à Zandvoort ou sur ces petits circuits.
Au Qatar.
Voilà, c'est le Qatar, c'est pas forcément sur sur la billetterie que tu les fais, mais plus sur le contrat directement. Mais voilà, donc on voit bien un peu la dynamique au niveau du calendrier F1. Donc c'est vrai que sécuriser, on va dire ça comme ça, le temple de la vitesse, qui est pour le coup un circuit quand même sympa, c'est à la rentrée, c'est quand même quelques virages mythiques, des courses mythiques, cette fameuse stat comme quoi c'est la moyenne la plus élevée du championnat. La parabolique, pour nous Français, la victoire de Pierre. Enfin, vraiment, Monza, c'est hyper cool de garder ça quand on aime la F1 et qu'on est un peu, réactionnaire, mais
puriste.
Plutôt nostalgique.
Bien sûr. Et j'ouvre les paris, messieurs.
Oui.
J'ouvre les paris. La première victoire de Lewis Hamilton avec Ferrari sera à Monza l'année prochaine.
Il
faudra attendre, ça ne sera pas tout de suite.
Ouais.
Hein.
Alors mais là, mon gars, 28 novembre 2024, si jamais ça se produit, je te régale, je te paye un resto. Allez, c'est comme ça. Non, mais parce que là, c'est très fort. Si tu arrives à le faire là, c'est très
je
fort.
Je sais pas, tu sais, je crois beaucoup. T'es un petit peu au mythique, le clin d'œil, le sens de l'histoire. Et bon, en même temps, s'il gagne à Monza, ça arrive un peu tard quand même dans la saison.
L'histoire serait magnifique.
Ce serait incroyable.
Ouais, l'histoire serait ouf. Franchement, moi,
après, dans le sens de l'histoire, Zidane, il prend pas rouge et on est champion du monde contre l'Italie. Hein,
non, mais il a envie de nous flinguer notre journée. Si vous nous écoutez, que vous êtes en voiture et que vous allez au boulot, déjà, vous n'êtes pas heureux. Mais alors là,
faites demi-tour.
Avec Louis, mais ouais, vous posez un arrêt. Je sais pas ce que vous faites. Mais... Bon, les gars, la grosse info de ce début de semaine avant ce Grand Prix du Qatar, 23e manche de la saison, je le rappelle, c'est qu'on va avoir une 11e écurie en Formule 1 à partir de 2026. General Motors a enfin fini par séduire le petit monde de la Formule 1. C'était un peu en discussion à l'époque avec Andretti. Finalement, il y a eu des tas de communications entre la F1 et Andretti. La F1 qui avait annoncé que c'était terminé. Et puis, il y a cette officialisation là qui est tombée il y a désormais deux jours, hein, puisqu'on enregistre ce podcast le jeudi, je vous le rappelle. Ce sera sous le pavillon Cadillac, les gars. Et c'est quand même assez énorme, puisque c'est un géant de l'automobile américain qui arrive en Formule 1. C'est surtout Arnaud, un géant de l'automobile américain, qui va produire son moteur, même si ça ne sera peut-être pas le cas pour les premières saisons. Mais
coucou
ils vont motoriser leur... Coucou Alpine. Ils vont motoriser leur monoplace. Donc voilà. Comment on réagit à ça, les gars? Déjà, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Formule 1? Perso, moi, je pense que voir plus de voitures, c'est super excitant. Et voir quand même un monstre comme ça de l'auto arriver en Formule 1, c'est toujours quelque chose de fou, Arnaud. Hein.
Oui, moi, je suis aussi très content. Déjà, bah, ça prouve que la Formule 1 est saine et a su s'ouvrir, sortir des 15 km² autour de Silverstone. Voilà, où il y a toutes les usines, mais voilà, de voir, d'attirer comme ça un grand constructeur américain, ça prouve toute la stratégie de Liberty Media, qu'on soit ou pas d'accord, mais voilà, on a fait rentrer un nouveau constructeur et surtout sur un autre continent, donc je trouve ça quand même très positif, et surtout d'entendre de la part de General Motors Cadillac de dire qu'on veut tout faire. Alors ils seront un petit peu obligés, et vu les contrats passés entre des écuries et des motoristes, ils se dirigeraient plus quand même vers un moteur Ferrari, puisqu'il n'y a pas non plus trop le choix maintenant pour niveau
non, puis,
moteur, mais
puis,
jusqu'à ce qu'ils
arrivent. C'est pas mal aussi en plus. Donc,
voilà, on va pas, on peut pas forcément trop bouder. Donc moi, je suis quand même super enjoué de rajouter une équipe, d'apporter un petit peu un vent frais, des visions, je pense, aussi différentes, parce que voilà, ce sera une autre culture d'entreprise, totalement différent de ce qu'on peut connaître, je pense, avec le plateau actuel et voilà toutes ces équipes. Fortement britannique, si tu veux, hormis Ferrari, voilà, pour l'ADN italien.
Et Viry, évidemment.
Oui. donc voilà, moi, franchement, je suis très heureux de cette nouvelle parce que ça va clairement dynamiser, je pense, encore un peu plus avec ce changement en 2026 de réglementation. Donc franchement, je suis content.
Moi, je pense qu'il n'y a que 10 personnes dans le monde de la F1 qui ne sont pas contentes. C'est les 10 oui. directeurs financiers des équipes actuelles.
Ah ben bah c'est sûr qu'il y a le gâteau, que, faut le partager, voilà. Voilà, un peu
mais
plus. Mais bon,
à part ces 10 là, bon, peut-être à Zandvoort ça fera encore un peu plus de bazar dans le tour de qualif parce que faudra caser deux voitures de plus. Mais sinon, à part ça, il y a quand même la place pour deux voitures de plus à tous les niveaux. Et comme le disait Arnaud, sur un plan de spectateur, intérêt de la compétition, bah c'est tout, ça va être mieux. C'est comme il le dit, c'est l'Amérique, donc c'est aussi toute quelque chose d'hyper différent. Ça peut rappeler aussi un peu quand, si vous aviez vu Le Mans 66, ou si vous êtes vieux, tout simplement, si vous vous rappelez de l'épopée de Ford qui veut venir battre les Européens au Mans. Et ben là, c'est un peu ça, tu vois. Eux, ils ont l'Indy, tout ça. Voilà, maintenant, on va aller essayer de jouer sur votre terrain et de vous battre. Et alors, dans ce que je lisais, ce qui aurait fait la différence par rapport au refus du premier projet Andretti et de celui-là, c'est vraiment justement le côté écurie cliente et constructeur. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Je trouve, si tu veux, bon, bah, les écuries clientes, je trouve quand même que tout l'intérêt, c'est un constructeur. Ça veut aussi dire un moteur en plus. Ça veut aussi dire un choix de plus pour les écuries clientes aussi. Ça veut dire plus de moteurs, c'est plus d'intérêt dans la compétition, dans la course. Donc non, moi à ce niveau-là, je trouve ça vraiment top. C'est aussi deux pilotes. Alors j'entends déjà que les Magnussen, Bottas, machin ont été contactés. À la rigueur, prenez-en un, mais on rajoute pas des bagnoles pour voir les mêmes.
Non, il faut renouveler là.
Mais
non.
Mais c'est ça, faut
renouveler. Mais moi, je l'adore.
J'ai entendu parler, en toute logique, qui souhaitent New Garden ou Colton Herta. Donc pour ceux qui regardent un peu l'Indy, moi je regarde un peu, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est quand même des mecs, quand tu regardes l'Indy, ils sont toujours là, hein, on parle de très bons pilotes d'Indy. Je crois qu'Herta est assez jeune.
Herta,
en plus,
il roule depuis 2020, il roule avec Andretti en Indy.
Ah, il roule avec Andretti maintenant,
depuis 2020, donc lui, tu vois, et il a fini deuxième du championnat cette saison, Colton Herta.
Il aime pas qu'on le prenne pour un jambon.
Excellent.
Très bien, oh là attention, là. On doit citer d'autres marques.
C'est
Est-ce
bon,
qu'on doit
c'est
citer
chaud.
D'autres marques de jambon là maintenant
Fleury Michon.
Je sais pas. Bon bref, on s'arrête
Future
là.
Futur pilote alpine.
Si bien sûr une marque de jambon souhaite sponsoriser le podcast, je vous rappelle qu'on a toujours personne qui nous accompagne. Ouais. Donc on est là. Et en effet, Joseph Newgarden, c'est aussi lui aussi un pilote d'IndyCar depuis plusieurs années.
Ouais.
Et il a gagné en 2017 et en 2019.
Ouais.
Donc voilà, lui.
Et gagner
lui,
en IndyCar, il y a des très bons pilotes d'IndyCar qui passent 10 ans sans gagner. Hein. C'est quand même assez spécial hein, comme compétition.
Et lui apparemment.
Est-ce que Romain Grosjean reviendrait pas?
Oh là là, non. Mais moi je. Ouais, ouais, non,
je
mais
pas.
Bon, ça serait cool.
Non. Bah non, parce qu'en fait, finalement.
Je sais pas si lui il a envie.
Il va même pas réussir à rester en Indy. Il a finalement un problème récurrent chez lui, c'est la régularité. C'est-à-dire que c'est un gars, c'est deux week-ends par an, il va faire une merveille, mais le problème c'est que trois ou quatre par an, il va te faire une boulette. Et je pense que ça lui colle trop à la peau. Et malheureusement, en fait, à la fin, c'est vrai. C'est-à-dire que. je l'ai longtemps défendu quand Eriksson lui est jamais rentré dedans ou quand il s'est mangé dans une voie des stands, disant voilà, ça montre aussi un gars qui est toujours investi, tu vois, tu essaies de le défendre et tout. Je pense tout simplement à la fin que c'est un pilote rapide, mais que c'est pas un champion, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Mais là, il y en a un là dont on parle beaucoup aussi, c'est Felipe Drugovich, oui. Qui porte mal son nom puisqu'il est brésilien, mais qui roule avec Cadillac en endurance. Ah. Qui est quand même champion de F2 en 2022, donc ça c'est quand même
Il a dû avoir un petit sourire en coin quand il a lu la news.
Bah,
je pense.
Tu m'étonnes. Bah, après, il faut que les pilotes, je vous rappelle qu'en Formule 1, pour rouler, il faut une super licence. Mm. Hein, donc ça limite quand même les
Drugo,
candidats.
Il conduit pas avec Aston, Drugovich ? Il fait pas des essais avec Aston ou...
Il fait peut-être des essais avec Aston. Ouais,
je crois qu'il
pilote,
doit pas.
Il est réserviste.
Mais bon, en Wake, il est avec Cadillac. Enfin,
et je crois que c'est Piastri qui dit que ça sera un grand pilote de Formule 1, champion du monde matériel.
Ouais.
Alors, moi, je connais pas suffisamment Felipe Drugovich. Je l'ai pas assez vu rouler pour savoir, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas?
Cola Pinto,
façon,
moi, les gars. Mais après, moi, je vous annonce Cola Pinto chez Caddy.
Pardon.
Pardonnez-moi, je suis désolé.
Dites-nous, on n'a pas annoncé Cola Pinto, ça sera plus simple. Hein.
Non, ouais. Mais du coup, Drugovich, Colapinto, ça ferait encore Brésil,
l'Argentine. Il faut un pilote américain pour que
c'est
quand même.
Oui, c'est pour ça qu'Herta et Newgarden aussi sont bien placés.
Même on parle, alors il n'est pas américain, mais tu as un Pato Ward aussi.
Bah,
c'est vrai qu'aussi son
Pato
nom
Ward,
revient.
Il n'est pas américain, mais il est, on va dire, c'est un Mexicain. Pilote mythique de l'Indy. Donc il a, comment dire, une certaine
il a que 25 ans,
culture
hein.
américaine ouais. aussi, ouais.
Il a une vraie légitimité. Non, je crois quand même que
l'énorme Liam McLaren, Pato Ward.
C'est Colton Herta. Et Colton Herta, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on avait parlé de lui dans le paddock en 2023 pour remplacer Gasly chez AlphaTauri quand Pierre part pour Alpine. Je crois que c'était vraiment tout proche de se faire. Et il y avait justement ce fameux problème de super licence. Il lui manquait des points. Et donc, du coup, il avait fini
par
prolonger.
Et pour le coup, on ne sait pas où est-ce qu'il peut les prendre, les points. Parce que quand tu es pilote de réserve, bon, hein, c'est un peu de patience. Tu vas faire tes 3 FP1 dans l'année. Tu t'es pas trop mauvais en F2 et paf, la super licence, normalement, elle arrive sans trop de soucis. Mais quand
faut qu'il aille faire sa petite séance d'essai. Ouais, ouais.
Quand t'es pas dans les programmes et tout, tu vois, parce que tu sens bien aussi que ceux qui finissent dans les baquets, c'est aussi un peu contractuel, quoi. Comme le disait Arnaud tout à l'heure, ça veut pas forcément dire que t'es le meilleur, c'est que parfois t'es un peu obligé de te mettre dedans. Comment il s'appelait Nissani à l'époque là, un pilote israélien qui était à 3-4 secondes des temps tout le temps, mais il avait sa place parce qu'il payait en fait.
Colton Herta,
tu sais, j'ai une anecdote sur
24 ans, les gars, il a que 24
ans.
Ouais.
J'ai une anecdote sur lui, tu sais qu'il est c'est un grand fan de football.
Ah ouais,
oui, il supporte Berlin.
Je sens
Hertha Berlin. Voilà, allez, on y va.
Au ton que t'avais dès le début, je savais pas où t'allais, mais je savais que t'allais sur une bêtise.
Non, mais voilà, ce serait lui le pilote un peu numéro 1. Alors, peut-être avec un pilote d'expérience, mais en tout cas, l'américain qui incarnerait le projet là, comme pilote, ça serait.
Après, je pense que
Colton
si tu vas chercher un jeune pilote en Indy. Pour le coup, là, il y a un sens à venir prendre un vieux briscard au niveau du développement de la voiture.
Ça.
En gros, Ayrton, c'est lui qui ira chercher les dixièmes et toi, tu es là pour faire en sorte que la voiture elle progresse bien, quoi.
On parlait du moteur, les gars, quand même. Ce qui est assez marrant, c'est qu'Andretti... À l'époque, Andretti, il discutait avec quand même les copains de chez Renault pour être motorisé Renault. Hein. Ça veut dire que Renault potentiellement aurait pu motoriser Alpine, bien évidemment, et avoir une écurie cliente avec General Motors et Cadillac. Pendant au moins une saison ou deux, quoi.
Ouais, c'est ouf. Ouais, mais bon, tu penses vraiment
ça a été une vraie piste.
Ça a été une vraie piste, mais quelle idée. Enfin, je sais pas, toi, demain, t'arrives à un endroit et on te dit, t'as trois options. Alors, tu veux les deux meilleures ou la nulle? Ah, bah, je vais prendre la nulle. Ça me paraissait pas logique. Alors, j'imagine qu'après, t'as des histoires aussi de. Comment on appelle ça j'imagine que peut-être que le prix du moteur Mercedes ou Ferrari, c'est pas le même.
C'est
Il y a sûrement plein de choses que je ne maîtrise pas. Mais je pense quand même que de toute façon, du côté de Liberty Media ou du côté de Cadillac, clairement, le projet GM qui arrive en constructeur, ça n'a rien à voir finalement avec Andretti qui voulait arriver en écurie cliente. Donc, je pense vraiment que tout le monde est gagnant quand même.
Parce que je vous rappelle quand même un peu les motoristes à partir de 2026, mais il y aura Audi qui va s'occuper de son équipe. Red Bull, ils sont avec Ford. Et bon, on a oublié ça. Hein.
Mais oui, ça on a oublié.
Red Bull, c'est associé à Ford. Bon, Mercedes, ils vont motoriser McLaren, Williams et donc Alpine. Et apparemment, t'as Aston qui a signé un contrat avec Honda. Et derrière, t'as Haas qui est motorisé, Ferrari et bien sûr la Scuderia. Donc,
et normalement Cadillac pendant 2 ans, si ça reste.
Et voilà. Et la grosse tendance, ce serait Cadillac pendant 2 ans.
Le seul qui manque, mais qui avait tenté dans les très grands constructeurs mondiaux, c'est Toyota.
Ouais.
Là, si tu prends en nombre
et
de
Toyota
millions de
voitures, qui est revenu tranquillement en posant son blaze, son sticker chez qui déjà ? Je sais plus, chez Sauber, non ?
Peut-être. Attends.
Ou Alpha, je sais plus, tu vois. En tout cas, ils sont revenus, mais pas complètement. C'est le truc.
Ouais. C'est pas As ?
Oui, c'est chez As. Voilà, bien joué.
Il est là, même depuis la Suisse.
Mais tu vois, maintenant c'est à tout le monde parce que Audi, c'est le groupe Volkswagen. Renault, est toujours là. La General Motors arrive. Donc voilà, t'as quand même les grands constructeurs mondiaux sur le thermique qui sont là. Hein.
Pendant que ça ferme des usines à tour de bras, ça arrive en F1.
Ouais, c'est vrai. Mais Dominique Cally, le président de la Formule 1, il l'a dit, c'est un vrai signe, l'arrivée de General Motors et de Cadillac dans le projet, c'est un vrai signe d'évolution de notre sport. C'est quand même quelque chose de très fort pour la Formule 1. Voilà, donc l'arrivée de Cadillac. Alors on a eu une monoplace un peu, un premier visuel de la future monoplace Cadillac. Je suis
c'est
pas
pour
fan
les livrer, hein. C'est... Ouais. On est beaucoup trop loin, ça ressemblera pas du tout à ça, je suis sûr.
On est sur un bleu un peu, je ne saurais même pas comment le décrire, un bleu nuit, ouais, c'est ça un bleu nuit ?
Je ne sais pas, moi
j'ai pas vu,
pour
c'est le bleu proche GP ?
Moi je voudrais les voir noir,
le bleu proche GP, moi j'aimais bien les gars.
Oui, on en a parlé, magnifique.
Bien sûr, c'est la plus belle incroyable. Livrée de l'histoire, Gauloise, PlayStation, Bic, tout ça, était incroyable. Incroyable. Mais non, ouais,
Agfa,
moi je voudrais...
Agfa, non, il n'y a pas Agfa ?
Peut-être. Je voudrais du noir, de l'or, tu sais, comme les gros Cadillacs du FBI, là, et un petit trait rouge. Voilà, tac.
Ouais, t'es vraiment en mode Quinri, quoi.
Alors, attends, il n'y a pas plus Quinri que Cadillac.
C'est vrai.
Donc,
c'est
autant jouer le truc à fond.
Autant y aller à fond. Les gars, dernier mot pour terminer ce warm-up. Vos pronos un peu là pour la course. Vous savez qu'on aime bien terminer par ça parce qu'à chaque fois on se trompe. Donc, pour renforcer notre crédibilité auprès de nos auditeurs, on va continuer avec cette rubrique. Louis.
Alors, j'avais quand même parlé de Mercedes semaine dernière. Ferrari va être mieux que prévu. Voilà. Donc, mais attends, est-ce que McLaren va quand même être devant ? J'ai envie de dire que non, la surprise, ça va être qu'on pense que McLaren va tout écraser et je pense que Ferrari va les battre. Voilà.
Ça, c'est beau. Bravo.
Mais Mercedes reculera un peu normalement et Red Bull, pareil, Red Bull fera pas grand-chose. Eux, ils ont tout fait. Et qui manque.
Et puis avec moi, il n'y a pas besoin de regarder le Grand Prix. Hein.
Ouais. Non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que le gars, tu sais qu'il en met pas une dedans depuis le début de la saison.
Mais il te refait chaque écurie.
Et il te refait chaque écurie à chaque fois. Alors qu'au début, t'étais bien, t'avais pas trop pris de risques. C'était pas mal. Ah, tu vois, Ferrari va être mieux que prévu. Voilà. Excellent.
Bah, Arnaud,
à toi.
Comme ça, tu vas pas se tromper.
Ouais, j'ai le goût du risque.
Arnaud, pourquoi pas ? Parce que je trouve qu'il fait quand même une saison. Plus qu'admirable dans ces conditions avec la voiture qui n'est pas la meilleure. Allez, pourquoi pas un doublé de George Russell ? Petit back-to-back.
Back-to-back, ça serait pas mal. Moi, vous savez ce qui m'excite
et
aussi,
Max, c'est et Max sur le podium encore.
Alors, qu'est-ce qui t'excite, Nico ?
Non, mais c'est un peu la lutte pour la 6e place.
Carrément.
Alpine,
on est à un point.
RB. Franchement, tu vois, ce vieux milieu de grille, un peu fadasse d'habitude, là, il y a une vraie bagarre et c'est cool. Je trouve, pour terminer la saison. On n'a pas trop parlé dans les futurs enjeux. Voilà, les gars. Bon, merci beaucoup. Bon, on se retrouve lundi pour débriefer tout ça. Arnaud, bon séjour en Suisse. Ceux qui adorent le handball, j'en fais partie, c'est pour ça qu'on fait la promo. Écoutez Arnaud, hein, les championnats d'Europe de handball féminin, c'est sur RMC. Louis, je suis sûr que tu vas en mettre une dedans avant la fin de la saison. C'est pour Ferrari ce week-end.
Allez,
on écoute les GG, évidemment aussi.
Bien évidemment.
Bah, Louis qui nous fait les meilleurs promos à chaque fois dans les GG, c'est exceptionnel. Je sais pas si c'est trop la cible,
Non, bah, on sait, tu sais, les GG, il n'y a pas vraiment de cible.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, c'est la
Mais
France.
Si vous êtes un auditeur des GG et que vous avez découvert le podcast grâce à Louis, envoyez-nous un message, franchement.
Avec plaisir.
Ça nous fera plaisir.
Que je vois s'ils prendront en otage l'antenne d'Alain et Olivier, ça vaut le coup ou pas.
Et bien évidemment, je vous le rappelle à chaque fois, mais une petite note, hein, continuez à nous encourager sur ces formats, le warm-up, si vous aimez. Du moins, si vous aimez pas.
Ah oui, si vous aimez pas, passez votre chemin, il n'y a pas de
voilà,
souci. Hein,
voilà. Il y a plein de contenu à écouter.
L'intérêt grand.
Vous n'êtes pas obligé de nous défoncer comme ça sur les plateformes. Hein. Allez, on se dit à lundi, les gars, pour débriefer cette 23e manche du championnat. Et bon Grand Prix du Qatar ce week-end. Bye bye.
Bye bye, ciao.
Le paddock RMC.